Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Bonjour. Oui, il ne faut pas oublier des fois, et je le dis pour moi, de dire aussi bonjour à notre Sauveur bien-aimé et le remercier pour tout ce qu'il fait pour nous. Car c'est merveilleux d'avoir un tel sauveur. Oui, on est reconnaissant. Il y en a qui ne le connaissent pas, c'est malheureux. Et j'aimerais bien qu'il y ait encore des âmes qui puissent être sauvées et ne pas finir l'éternité là où ce sera irréversible. Chers amis, disons simplement merci Seigneur de nous aimer. Merci Seigneur d'aimer tous ceux qui écoutent, au loin comme au près, qui écoutent ces études et fortifient-les, renouvelez-les, oui, et accorde-leur de pouvoir encore grandir en connaissance, en leur donnant la sagesse, ton intelligence, pas celle du monde, mais celle qui vient de toi, et de les bénir pour qu'ils puissent te servir encore mieux. Et qu'il y ait des âmes de sauver, une seule âme arrachée à Satan, eh bien c'est tout le ciel qui se réjouit, c'est pas moi qui le dis. Donc ça vaut la peine, essayez. Aujourd'hui nous continuons notre série, je crois que ça sera l'étude numéro 16, et la série, vous la connaissez déjà, c'est le Seigneur Jésus-Christ, la lumière, jusqu'au retour de Jésus-Christ, le Messie. Alors il y a beaucoup à dire jusque-là. Aujourd'hui, ce sera un récit concernant les anges dans l'Ancien Testament. Et dans notre prochaine étude, ce sera la même chose, mais dans le Nouveau Testament. On ne peut pas dire tout, ce serait trop long. Mais l'essentiel, je vais essayer de vous l'apporter maintenant. L'Ancien Testament est rempli d'histoires intéressantes au sujet des anges. Parfois, ce furent de grands hommes, parfois des inconnus, voire ceux auxquels on s'attendrait le moins, qui ont eu l'honneur d'être visités par un ange. Mais une chose est certaine, ces visites ont totalement changé leur vie. Ceux qui ont eu cette expérience ont totalement changé, et je les comprends. Il est impossible, dans le cas présent, de citer chacune des histoires racontées simplement dans notre Sainte Bible à propos des anges. Et si vous désirez de les étudier individuellement, vous pouvez vous munir d'une simple concordance et d'un dictionnaire biblique, mais pour l'instant, commençons par notre ami Abraham. Abraham rencontra des anges à plusieurs reprises. Lorsque, par exemple, il a campé dans les plaines de Mamré, il a été visité un jour parce qu'il nous semble être le Christ avant l'incarnation. accompagné de deux anges. Ça se trouve dans la Genèse, chapitre 18, verset 1, jusqu'au verset 33. J'aime la façon dont il leur lave les pieds et les invite à se reposer à l'ombre d'un arbre, exactement comme on le ferait pour un être humain qui nous rendrait visite à l'heure de la canicule. Et puis, il demanda à Sarah, nous parlons de l'ange, de préparer les gâteaux de fleurs de farine, tandis qu'il courut choisir un veau tendre et bon, et le donna à l'un des serviteurs pour qu'il l'apprête. Et ensuite, il a fait cuire, et lorsque tout a été prêt, il a mis la table. Il a posé du pain frais, du beurre, c'est pas mal, et du bouillon de veau, excellent. Tout cela constitua un repas savoureux. Le Seigneur mangea et les anges apprécièrent ce repas pris en cet endroit ombragé. Apparemment, ni le Seigneur ni les anges ne sont végétariens ou même végétaliens. Lorsque Jésus était encore sur terre après sa résurrection, il a même mangé du poisson rôti. Notez Saint-Luc, chapitre 24, versets 41 et 42. Juste pour vous dire que certains chrétiens pensent que ils doivent être végétaliens, j'en connais, et que ça les aide à être plus spirituels. Si vous me trouvez dans les Saintes Écritures que c'est cela qui va aider la spiritualité, montrez-moi les indications bibliques. Mais continuons. Plus tard, ce jour-là, Abraham continua d'intercéder pour la ville de Sodome et pour son neveu, Lot. Ça lui était pas indifférent, ce qui risquait d'arriver à son neveu Lot et à toute sa famille. Il est probable que ces deux mêmes anges ont été ceux qui ont visité Sodome et ils ont fait fuir Lot et toute sa famille. Quelques années plus tard, Dieu a mis l'obéissance et l'amour d'Abraham à l'épreuve en lui demandant même de sacrifier son fils Isaac sur le mont Morija. Notez Genèse, chapitre 22. Abraham, le cœur brisé, leva son couteau pour tuer Isaac. Mais voilà, heureusement, l'ange de l'Éternel lui parla et l'en empêcha. Ce ne fut pas autre chose que un sérieux test, savoir si Abraham aimait tellement son Dieu qu'il aurait été prêt d'obéir à tuer son fils, Isaac. C'était un test sérieux Et l'Éternel a vu. Quelle obéissance, quel amour fabuleux de Abraham. Je réfléchis si ça aurait été moi-même, si vraiment je serais allé jusqu'à obéir à ce point-là. Il n'est pas défendu de se remettre en question soi-même. Ça permet de nous situer tels que nous sommes. Ce devait être l'un des plus merveilleux messages donnés par des anges à un homme. C'était d'autant plus important que la naissance miraculeuse de cet enfant avait pourtant été annoncée, comme vous le savez, en lisant la Sainte Parole, elle a été annoncée par des anges. De la même manière que nous aussi, nous serions particulièrement attachés à un enfant, et comment, dont nous aurions prophétisé la naissance, ces anges devaient-ils être spécialement concernés et devaient-ils aimer Isaac tout particulièrement? Ensuite, deuxièmement, nous avons Jacob. La première visitation de Jacob, nous la trouvons dans la Genèse, au chapitre 28, versets 12 à 16. Jacob était le fils jumeau d'Isaac et de Rebecca. Il a eu plus, beaucoup plus qu'une simple visitation angélique remarquable. La première a été la nuit où il a fui. Il a pensé qu'il devait fuir son frère Ésaü, qui était terriblement en colère après que Jacob a malheureusement trompé leur père pour obtenir la bénédiction qui devait revenir à Ésaü. Lorsqu'il se coucha dans la campagne, voici qu'il a vu tout à coup, en songe, des anges en pleine activité. Bien sûr que je ne vous demande pas de comprendre tout cela d'une façon rationnelle et à notre façon humaine. Il faut voir le message qui nous est donné par là. Car voici, une échelle était dressée sur la terre et à son sommet, cette échelle, paraît-il, touchait jusqu'aux cieux. Et là, on pouvait voir des anges de Dieu qui montaient et descendaient sur cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait sur elle, et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai, ainsi qu'à ta semence. » Et ta semence sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras depuis l'Occident jusqu'à l'Orient, et depuis le Nord jusqu'au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta semence. Et voici, je suis avec toi, et je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans cette terre-ci, car je ne t'abandonnerai pas jusqu'à ce que j'ai fait ce que j'ai dit. » Les anges accomplissent toujours les messages que nous recevons d'en haut. Ces anges qui entendirent les promesses faites par Dieu à Jacob, sont devenus plus tard des aides pour les fils de Jacob, c'est-à-dire pour Israël, à travers les siècles. Ils participeront à leur délivrance d'Égypte, ils combattront avec eux contre les Cananéens, et puis beaucoup d'autres ennemis, ils les délivreront de Babylone, les aideront à triompher de leurs adversaires, et enfin, aujourd'hui encore, ce sont les anges éternels qui livrent bataille pour Israël et reconduiront ses enfants depuis les nations de la diaspora vers Israël. La deuxième visitation se trouve en Genèse, chapitre 32, verset 24, noté jusqu'au verset 29. Une autre rencontre très importante de Jacob avec des anges s'est faite à Péniel, lorsqu'il préparait son cœur à faire face à son frère Ésaü, qui dans sa colère, et on le comprend, le poursuivit avec 400 hommes. Oh là là, ce devait pas être drôle, ça devait être assez effrayant. Et avec une grande crainte, il envoya à Ésaü d'importants cadeaux de bétail et de moutons, tandis qu'il restait seul de l'autre côté du torrent de Jabbok, où un ange du Seigneur le rencontra et même lutta avec lui jusqu'à l'aube. Jacob lutta avec une force terrible et désespéré contre son adversaire céleste. Et enfin, lorsque arriva le lever du soleil et que l'ange devait le quitter, l'ange toucha l'emboîture de la hanche de Jacob qui se déboîta. Malgré la forte douleur, ça devait être terrible, celui-ci continua de se battre désespérément en s'écriant: « Eh bien, je ne te laisserai point aller, partir, sans que tu m'aies béni. » Genèse, chapitre 32, verset 26. L'ange avait le pouvoir de changer le nom de Jacob, qui est devenu, comme vous le savez, Israël, prince. Et il changea aussi sa nature, brisant sa duplicité et sa fourberie. Jamais il n'aurait pu devenir le prince d'Israël si Dieu ne l'avait pas brisé. Et nous non plus, chers amis, nous ne pouvons devenir ce que Dieu veut que nous soyons, à moins que nos natures obstinées, et je me pince le nez, vous savez ce que ça veut dire, j'étais rebelle, fourbe, rusée et égoïste, jusqu'à ce que Dieu nous ait brisés. Certains d'entre nous aurions besoin de cette lutte d'une nuit durant avec l'ange de l'Éternel, celle qui vient d'une reconnaissance honnête de notre impuissance totale. Nos Ésaü viennent à notre rencontre et le moment de faire les comptes approche et nous ne serons pas prêts à rencontrer notre adversaire à moins d'avoir prié jusqu'au bout pendant la nuit que traverse notre âme. Vous savez ce que ça veut dire. Troisièmement, nous avons Balaam. Cela se trouve dans le livre des Nombres, au chapitre 22. Là, il est dit que la parole de Dieu, elle dit clairement que ceux qui veulent devenir riches tombent dans la tentation et dans un piège et dans plusieurs désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition, car c'est une racine de toutes sortes de maux que l'amour de l'argent, et que quelques-uns ayant ambitionné, ils se sont égarés de la foi, et ils se sont transpercés eux-mêmes de beaucoup de douleurs. Ils ont traversé, par leur faute, beaucoup de douleurs qui peuvent être aussi bien physiques que morales. Notez 1 Timothée, chapitre 6, versets 9 et 10. Voyez-vous, si l'on manque de fondement véritable, on est facilement tenté de rechercher les richesses matérielles plutôt que spirituelles. Balaam chute parce qu'il avait reçu de Balak, le roi de Moab, de très belles promesses de renommée, de gloire et d'argent. Et cela, s'il prononçait contre Israël les malédictions qui le détruiraient. Or Dieu avait dit clairement, tu n'iras pas avec eux, tu ne maudiras pas le peuple, car il est mien et il est béni. Notez Nombres, chapitre 22, verset 12. Mais voilà, lorsque Balak a offert encore de plus grandes récompenses et envoya de plus grands ambassadeurs pour le supplier, voilà que Balaam fut tenté. Qui d'entre nous ne le serait pas? Et ils lui dirent, ainsi a dit Balak, je te prie, ne te laisse pas empêcher de venir vers moi, car je te comblerai d'honneur, et tout ce que tu me diras, je le ferai. Viens donc, je te prie, maudis-moi ce peuple. Versets 16 et 17. Ainsi, cette nuit-là, Dieu laissa Balaam agir comme il le voulait. Voyez-vous, Dieu nous a laissé notre libre arbitre. Il n'a pas voulu que nous soyons des zombies, des robots, ou tout ce qui se fait actuellement. Nous pouvons agir comme nous l'entendons, mais il nous met en garde en nous envoyant des prophètes et des songes. Il nous parle par sa parole, il nous montre des signes, mais si nous choisissons de passer outre, eh bien, il nous laisse faire. Et nous laisse faire notre propre choix. Néanmoins, à cause de son amour pour Israël, il envoya un ange pour arrêter Balaam. La Bible dit, « Et Balaam se leva le matin, et sella son ânesse, et s'en alla avec les seigneurs de Moab. » Mais la colère de Dieu s'embrasa parce qu'il s'en allait et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour s'opposer à lui. Et il était monté donc, comme nous le savons, sur son ânesse et ces deux jeunes hommes étaient avec lui. Et l'ânesse vit. Elle a pu voir tout à coup l'ange de l'Éternel se tenant dans le chemin, son épée nue à la main. Et l'ânesse se détourna du chemin et alla dans les champs. Et Balaam frappa l'ânesse pour la faire retourner dans le chemin. Notez Nombre, le livre des Nombres, au chapitre 22, versets 21 à 23. Donc, la colère de Balaam, elle fut telle qu'il aurait volontiers tué l'ânesse, mais elle voyait l'ânesse que Balaam ne voyait pas. Tout ça, c'est donc un miracle voulu de Dieu le Père. Lorsque elle parla et que Dieu ouvrit enfin les yeux de Balaam, il comprit pourquoi elle ne voulait pas avancer. De plus, l'ange lui dit qu'il l'avait arrêté, car ton chemin est pervers devant moi. Verset 32. Ensuite, il ajouta que si l'ânesse s'était détournée, ne s'était pas détournée trois fois, il aurait même tué Balaam, mais aurait sauvé l'ânesse. On se demande pourquoi les hommes ont-ils tellement de difficultés à entendre la voix de Dieu et à savoir ce qu'il leur demande. Si nous prions un peu plus que nous le faisons, ça pourrait peut-être changer certaines choses pour nous dans certains moments de notre vie. Pourquoi les animaux, et c'est possible, sont-ils plus capables que l'homme de reconnaître Dieu et parfois même d'entendre sa voix? Quel drame quand un simple âne peut voir Dieu alors qu'un prophète, ne le voit pas. On sait que, par exemple, il y a des histoires concernant des chiens, même des chats, des histoires incroyables à première vue, difficiles à avaler, comme on dit, mais vrai. Revenons donc à notre ami Balaam. L'argent et les distinctions, c'est cela qui avait aveuglé Balaam. Lorsqu'il proposa de s'en retourner, l'ange le laissa partir, car il connaissait la faiblesse de l'homme, et il savait qu'il serait toujours prêt à maudire, moyennant des intérêts sonnantes. Dans ma vie, j'en ai vu beaucoup qui ont troqué leur appel contre les bénéfices matériels. Je les ai vus conspirer, faire des projets, recourir à des combines dans le but d'atteindre leur propre but, tout en donnant aux autres l'impression qu'ils faisaient la volonté de Dieu. Ni la voix de Dieu, ni l'intervention d'un ange ne pourrait les arrêter. Et ce sont eux que l'apôtre Pierre, noté 2e épître de Pierre, chapitre 2, verset 15, et Jude, le verset 11, et encore Saint Jean, dans Apocalypse, chapitre 2, verset 14. Eux, ils appelaient les faux prophètes qui vendent leur âme contre les biens matériels et qui périront, paraît-il, dans la honte. Oui, nous pouvons périr avant l'heure Et cela aurait pu m'arriver 2-3 fois. J'en suis pas très fier, bien au contraire, j'en ai honte. L'ange qui arrêta momentanément Balaam était peut-être l'archange Michel. C'était lui le gardien d'Israël. Il ne fut donc pas permis à Balaam de maudire Israël. Il est venu pour maudire, mais il a fini par bénir. Et puis, enfin, il a montré, aux Moabites comment faire tomber Israël dans l'adultère et l'idolâtrie. Pour cela, Dieu lui-même les frappa. Tout cela, avec nos pensées humanistes, on ne comprend pas ou on ne veut pas comprendre. Car Dieu a frappé 24 000 Moabites qui sont morts d'une plaie que de nombreux étudiants de la Sainte Bible pensent être une maladie vénérienne, le sida ou autre chose. Livre des Nombres, chapitre 25, verset 9. Dieu peut nous envoyer des anges pour nous mettre en garde et pour essayer de nous arrêter. Mais si nous persistons à suivre notre propre volonté, Dieu le permet, car il nous donne le libre choix. Et cela nous mène toutefois à notre propre destruction. Faites donc bien attention d'obéir à l'ange, obéir à la voix intérieure de l'Esprit Saint que le Seigneur vous a envoyée pour vous guider. Quatrièmement, nous avons Gédéon. Cela se trouve dans le livre des Juges, chapitre 6. Ce fut par un ange que Gédéon, fils de Joas, de la tribu de Manassé, fut appelé à conduire Israël dans le combat contre les Madianites. C'était peut-être le même ange que celui qui rencontra Balaam. Gédéon a eu avec lui une longue conversation, nous est-il dit dans le livre des Juges, chapitre 6, et notez le verset 11 jusqu'au verset 24. Et non seulement il a reçu son appel, mais il a reçu également les réponses aux questions qu'il se posait. Puis il prépara un repas pour l'ange. Sans doute avait-il été enseigné pour cela par ce qu'avait déjà fait Abraham. Cette fois-ci, eh bien, l'ange ne mangea pas, mais il toucha la nourriture avec son bâton, puis du feu monta du rocher, embrasant la chair et les pains. Quand l'ange l'eut quitté, Gédéon fut excédé, car il était convaincu que son visiteur était l'ange de l'Éternel et qu'il allait sûrement mourir. Mais Dieu lui parla. Il lui dit « Paix te soit donnée. Ne crains point, tu ne mourras pas. » Alors Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et l'appela Jéhovah Shalom. L'Éternel est ma paix. Ce n'est que lorsque la paix profonde de Dieu habite votre cœur qu'il peut se servir de vous pour faire de grandes choses. Vous ne pourrez jamais mener d'autres à la victoire, non, si vous n'avez pas Shalom, le prince de la paix, demeurant dans votre cœur. Cinquièmement, nous avons Samson. Cela aussi se trouve dans le livre des Juges, au chapitre 13. Samson était de la tribu de Dan. Il a reçu son appel avant même sa conception, et cela dans le sein maternel, et aussi par un ange qui visita sa mère. Notez Juges, chapitre 13, versets 3 à 7. Et lorsque elle en parla à Manoa, son mari, eh bien lui aussi voulait voir l'ange. L'historien Joseph, qui était connu mondialement, nous dit qu'il était très jaloux. En tout cas, l'ange est venu une deuxième fois et la femme a couru pour chercher son mari. Après une longue conversation pendant laquelle l'ange répéta tout ce qu'il avait dit à la femme de Manoah, celui-ci offrit de la nourriture. Puis l'ange l'offrit à l'Éternel en holocauste, car, dit-il, si tu fais un holocauste, tu l'offriras à l'Éternel. Juges chapitre 13, verset 16. Lorsque Manoah lui demanda son nom, l'ange répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ? Il est merveilleux. » Verset 18. Ce mot merveilleux est « pili » ou « pali » qui signifie « incompréhensible, merveilleux, remarquable et surnaturel ». Parfois, les merveilles de Dieu et ses œuvres surnaturelles sont tellement merveilleuses qu'elles demeurent incompréhensibles pour notre souvent petite intelligence naturelle ou humaine. Car rappelons-nous quand même que nous ne sommes pas omniscients, étant donné le court instant de vie qu'il nous est alloué sur cette terre par rapport à l'éternité. Soyons raisonnables et logiques et acceptons de le comprendre. Sixièmement, David, il est là dans 2 Samuel, chapitre 24, et dans 1 Chronique, chapitre 21. En général, Dieu parlait à David par la bouche des prophètes tels que Samuel, Nathan et Gad. Et c'est vers la fin de sa vie, après qu'il eut péché en dénombrant le peuple et que l'Éternel, dans sa colère, a envoyé la peste qui a tué 70 000 personnes de Dan à Beersheba en une seule journée, que enfin David a vu un ange pour la première fois. Encore une fois, nous qui pensons d'une façon humaniste, nous ne comprenons pas que Dieu pouvait tuer ou faire tuer par une terrible peste 70 000 personnes. Ça nous dépasse. Mais pour ceux qui méditent la parole de Dieu tous les jours, il y en a de moins en moins, avec tous les gadgets qui nous sont offerts, par l'ennemi qui pilote tout, qui est en quelque sorte le capitaine du navire sur lequel nous sommes et qui sombre doucement, lentement mais sûrement. Alors, David a vu un ange pour la première fois. Et cet ange destructeur a frappé un tiers des hommes de guerre, car Dieu était en colère contre David qui, par orgueil, avait désobéi en commençant à dénombrer le peuple. L'Éternel connaissait son cœur, heureusement. Ce ne fut que lorsque l'ange commença à frapper le peuple de Jérusalem que David leva les yeux et il voit, se tenant entre la terre et les yeux, un ange, ayant dans sa main son épée nue, qu'il étendait sur Jérusalem. David et les anciens de Jérusalem, déjà couverts de sacs, crièrent à Dieu, intercédaient, pleuraient, gémissaient, reconnaissaient leur faute pour obtenir miséricorde. Et David prit sur lui, il a pris sur lui toute la culpabilité. Il ne voulait pas la déverser sur d'autres de son peuple en disant « c'est lui, c'est pas moi ». À cause de son intercession sérieuse, honnête, à cause de son humilité et de sa confession, il a obtenu miséricorde. 1 Chronique, chapitre 21, verset 15 jusqu'au verset 17. Oui, quelle chose terrible quand, à cause de notre péché, l'ange de la colère doit tirer son épée contre nous ou contre ceux que nous aimons. Septièmement, nous avons Élie. Notez 1 Roi, chapitre 19, versets 1 à 8. Bien que des anges ont visité Élie à plusieurs reprises, nous ne parlerons ici que d'une seule de ces occasions, celle qui a eu lieu après que Élie a fait descendre le feu sur le mont Carmel et avant de fuir ensuite vers le désert, loin de la colère menaçante d'une nommée Jézabel. Oh là là, pauvre Élie, c'est comme nous. Nous arrêtons souvent de faire confiance totale à notre Sauveur bien-aimé et parfois, il nous arrive de prendre nos jambes à notre cou, comme on dit, n'est-ce pas, et de décamper. Or, à bout de force, après avoir couru sans se nourrir, voilà qu'il se laissa tomber sous un genêt et il demanda à Dieu de lui donner la mort. Oui. Il voulut mourir. Oh, au fond, on pourrait même dire, c'est un peu hypocrite. La nature humaine est parfois illogique. Et je me pince le nez. Car s'il voulait vraiment mourir, hein, soyons sincères, pourquoi fuir loin de Jézabel qui voulait sa peau? Mais Dieu comprenait ce qui se passait dans son cœur et plutôt que de répondre au cri désespéré dont la cause était sa fatigue extrême, il a pourvu au désir de son cœur d'une autre façon. Car alors qu'il dormait, voilà qu'un ange a fait cuire un gâteau sur des charbons ardents, venant probablement de l'autel céleste, et lorsqu'il fut prêt, l'ange le toucha doucement pour le réveiller en lui disant « Lève-toi et mange !» Lorsque Élie a vu le pain chaud, qui n'aimerait pas du pain frais, tout chaud, et la cruche d'eau, cette cruche d'eau n'était pas de l'eau polluée comme aujourd'hui par notre égoïsme, notre désir de tout vouloir, quitte de saccager l'écosystème de la terre. Alors, notre ami Élie mangea et but d'une eau d'une pureté extraordinaire. Et ensuite, il se recoucha et s'endormit. Et l'ange le toucha une seconde fois, le réveilla et lui dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Verset 7. Et il se leva et mangea, et il alla avec ses forces renouvelées pendant 40 jours et 40 nuits jusqu'à Horeb, la montagne de Dieu, où l'Éternel lui communiqua trois grandes révélations. Chers amis, il se peut que nous n'ayons jamais le privilège de recevoir des anges qui nous donnent le pain des anges, mais nous pouvons goûter la manne que est la sainte parole de Dieu, qui représente la sainte parole de Dieu, et qui nous a été donnée par des anges. Hébreux, chapitre 2, verset 2, c'est-à-dire par révélation. Recevons ainsi, notre ami Élie, la force nécessaire pour le grand voyage que est la vie devant nous. Nous avons parfois un grand voyage devant nous. Le mien touche à sa fin. Vous pensez bien, à 88 ans, je suis plutôt à la fin qu'au commencement. Mais j'accepte. Et Dieu, par Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, peut aussi nous toucher, nous renouveler. Oh, c'est pas toujours automatique. Non. Des fois, on doit passer par des moments douloureux. Ce fut aussi mon cas. Donc, n'omettez jamais, chers amis, de manger le pain des anges, c'est-à-dire la sainte parole de Dieu, chaque matin, pourquoi pas. Autrefois, tous les serviteurs de Dieu et servantes de Dieu, missionnaires ou autres aides, le faisaient chaque matin. Oui, avant d'entamer leur route de la journée, car vous en aurez besoin, et encore une fois, car quoi ? Car très nombreuses, surtout de nos jours, sont les puissances de Jézabel, tous les démons de Satan, qui sont à l'affût pour vous détruire et pour dérober votre appel. Souvenez-vous toujours des paroles de l'ange. Lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. 1 roi, chapitre 19, verset 7. Ensuite, nous avons, huitièmement, Élisée. Une très belle histoire, pleine d'humour, nous est racontée dans le livre de 2 rois, chapitre 6, verset 5, jusqu'au verset 23. Lisez ces versets tranquillement. Le roi de Syrie a envoyé à Dothan une grande armée avec des chevaux et des chars pour capturer Élisée, car Élisée avertissait le roi d'Israël des plans militaires syriens les plus secrets. Deux Rois, chapitre 6, verset 12. Et lorsque le serviteur d'Élisée a vu cette armée immense, il fut rempli de crainte et s'écria : Hélas, mon Seigneur, comment ferons-nous ? Comment allons-nous faire ? Et Élisée lui répondit : Ne crains pas, car ceux qui sont avec nous sont en beaucoup plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Puis Élisée demanda à Dieu d'ouvrir les yeux de son serviteur afin qu'il puisse voir, comme lui, les armées célestes. Et le Seigneur lui ouvrit les yeux, et le serviteur pouvait voir toute la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Ensuite, Élisée demanda à Dieu de frapper les soldats syriens de cécité. Après quoi, il les conduisit jusqu'en Samarie, où ils furent pris captifs par Israël. Notez 2 Rois, chapitre 7, verset 1 jusqu'au verset 20. Il y a de quoi méditer, ou à méditer. Les armées célestes chassent toute une armée. Et une autre histoire, aussi remplie d'humour, est celle des 4 lépreux qui ont quitté la ville qui était assiégée de Samarie afin d'obtenir de leurs ennemis de quoi manger, car ils étaient affamés. Et lorsque ils arrivèrent au camp syrien, voilà qu'il n'y avait personne, car ils avaient entendu une armée qui les avait terrifiés et les avait fait fuir, laissant derrière eux leurs provisions et toute une traînée de vêtements, de l'or et de l'argent. Je crois que ce sont les armées célestes qui les ont chassés. Neuvièmement, nous avons les assistants célestes de Josaphat. J'aimerais vous raconter encore cette histoire où il est question de guerre. Elle se trouve dans 2 Chroniques, chapitre 20. Lorsque Josaphat a conduit son peuple au combat, ils étaient perdants d'avance face à leurs puissants ennemis, ces ennemis étaient tellement plus nombreux qu'eux. Alors qu'ils obéirent à la parole du prophète, qui leur a dit de chanter et de louer le Seigneur, il se passa une chose extraordinairement merveilleuse. Le Seigneur dressa des embûches contre l'ennemi et ils se détruisèrent entre eux. 2 Chroniques, chapitre 20, verset 22. Quand nous chantons et que nous louons le Seigneur au milieu de toutes nos épreuves, cela attire les anges, parce qu'ils aiment nous entendre louer le Seigneur. Ils aiment nous voir prier, intercéder. Et ils viendront auprès de nous pour nous défendre et pour nous aider bien plus lorsque nous louons que lorsque nous quémandons sans arrêt et que nous nous plaignions. Et je peux aussi pincer mon nez. Souvent, je demandais, je me plaignais, et je demandais encore, jusqu'à ce que le Seigneur me fît comprendre de surtout prier et de reconnaître certains péchés, de m'humilier, de demander pardon, etc., comme c'est écrit dans le Saint-Livre. Oui, il doit de parfois nous tirer les oreilles, et je le remercie pour cela. Oh oui, même que c'était parfois douloureux. Merci Seigneur de m'avoir tiré les oreilles. Comment ces embûches ont-elles provoqué une telle victoire? Ils se sont mêlés aux armées ennemies, et puisqu'ils étaient invisibles quand ils portaient un coup, celui-ci fut attribué aux camarades qui étaient tout proches, déclenchant ainsi des bagarres fratricides. La Bible nous dit que ceci a eu lieu à travers tout le camp de l'ennemi, et les fils d'Ammon et de Moab se levèrent contre les habitants de la montagne de Séir pour les exterminer et les détruire. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séir, ils cédèrent l'un l'autre à se détruire. À premier abord, tout cela nous semble horrible, incompréhensible. Lisez 2 Chroniques, chapitre 20, verset 23. Lorsque les enfants d'Israël arrivèrent sur le champ de bataille, alors voilà qu'il ne restait pas une seule âme en vie. Oui, c'est souvent des choses qui, pour nous, avec avec ce qu'on nous a fait comprendre, nous paraît horrible, barbare. Et il y en a qui disent, mais c'est un Dieu horrible, affreux, criminel, un meurtrier. Et alors ils veulent rien savoir. Il ferait peut-être mieux de méditer, de lire, de sonder les Saintes Écritures davantage. Et ensuite le Nouveau Testament, pour comprendre l'ensemble de la Sainte Parole. Mais, encore une fois, Satan, c'est lui le prince de ce monde, et il amuse les gens avec des gadgets toujours plus performants, et qui demande toute l'attention de ses esclaves. Les esprits méchants agissent de la même façon parmi les chrétiens aujourd'hui. Ils se mettent entre les chrétiens et ils envoient des ordres maléfiques, leur faisant croire ainsi que l'atmosphère de haine émane de l'autre, et non pas de sa source réelle. Cela fait naître le manque de confiance, la suspicion, la colère, la vengeance, et même des disputes parmi le peuple de Dieu qui engendrent les ruptures et les divisions. Satan n'a rien inventé, il ne fait que copier Dieu. Il a vu qu'il se servait d'embûches et il s'en sert aujourd'hui également. Parfois, il ne s'agit pas uniquement des démons, mais aussi de personnes qui sont possédées, qui sont contrôlées par les démons, On peut les rencontrer dans la rue, ces personnes dont nous avons parfois pitié, dont nous pensons qu'ils sont bien à plaindre, que on devrait donc les aider en tout ce qu'ils nous demandent, et leurs demandes sont parfois au-delà de ce que nous pouvons donner. Mais c'est l'ennemi qui fait cela, et nous tombons dans le panneau. Oui, nous tombons dans le panneau, moi y compris. Parce que ces gens se laissent utiliser par le diable. Du reste, il arrive même que des chrétiens qui, involontairement, on sent coupable. Ça peut arriver. Dixièmement, nous avons le ministère des anges après Babylone. Sans aucun doute, les anges ont accompagné les enfants d'Israël lors de leur retour d'exil, bien entendu. Notez Esdras qui nous dit dans son chapitre 8, depuis le verset 21 jusqu'au verset 32, combien il a eu honte de demander la protection du roi pour lui et pour les exilés durant les 5 mois de voyage depuis Babylone jusqu'à Jérusalem. Au lieu de cela, il sollicita l'aide de Dieu et publia un jeûne près du fleuve Ahava afin d'obtenir son aide pour le long voyage. Souvenez-vous que Zorobabel ne ramena que des hommes à Jérusalem. Esdras devait donc inclure les femmes et les enfants. Esdras, chapitre 8, verset 21. Et les précieux ustensiles de grande valeur, venant du sanctuaire, il devait les faire porter. Le chemin était plein de voleurs et de brigands qui se cachaient dans l'attente d'une telle aubaine. Or, sans l'aide de Dieu, ils n'auraient jamais réussi. Mais l'Éternel les ramena sains et saufs et sans aucune perte. Le jeûne a toujours pour conséquence l'assistance et la protection des anges au milieu du danger. Lorsque l'ennemi s'acharne contre vous, trouvez un Ahava où vous pourrez chercher la face de Dieu dans le jeûne et dans la prière, afin de remporter la victoire en marchant à travers les endroits infestés de démons et d'ennemis sans la moindre égratignure. C'est merveilleux. Pour terminer, chers amis, nous avons onzièmement Zacharie. Ce sera très court. La remarquable prophétie de Zacharie concernant les temps de la fin, elle a été donnée presque entièrement par des anges qui lui ont montré les choses à venir, et notamment ce qui se passerait en Israël. Demain matin, Dieu voulant, nous aurons la suite, et ce sera des visitations prophétiques dans le Nouveau Testament. Pour aujourd'hui, nous allons terminer par la prière. Mais avant, je voudrais vous transmettre quelque chose que le Seigneur m'a donné pour vous. Il est dit en Romains, au chapitre 5, verset 19, par l'obéissance d'un seul, ils seront en grand nombre rendus justes. Romains chapitre 5, verset 19. Le portail qui vous ouvre l'accès du vrai culte, c'est celui de l'obéissance. Elle seule, l'obéissance, traduit la réalité de votre amour et fait de vous un fort. Beaucoup arriveront jusqu'à Jésus-Christ dans le lieu saint en passant par ce portail. Une fois là, ces âmes en quête de vérité accéderont au sein des saints. Est-ce trop exigé de votre part que de réclamer pour cela votre obéissance? Je vous le demande. Ne vous chagrinez pas si vous êtes appelé à vivre dans l'ombre. Il ne saurait être question pour vous de vous imposer à la façon du monde. Il s'agit bien plutôt que vous soyez fidèles et obéissants en tout, de façon à apporter aux autres de la sorte ce que vous pouvez désirer qu'ils reçoivent, et cela au niveau de l'Esprit Saint et avec force. Oui, tout cela, et même bien plus que tout ce que vous pouvez leur souhaiter de meilleur. Je ne promets à mes disciples ni les facilités. C'est ce que dit le Seigneur. Il ne promet pas à ses disciples que tout soit facile, ni les plaisirs du monde, mais bien plutôt, il vous donne les joies que le monde ne peut ni donner, ni ravir. Et puis, Jésus-Christ, il est le seul à pouvoir vous garantir la paix du cœur. En effet, certains, pour des raisons financières, ne peuvent pas jouir des belles choses que le monde peut offrir. Mais rassurez-vous, Jésus-Christ est près de vous et il est prêt de vous offrir autre chose, c'est-à-dire des trésors et des joies plus hautes de son royaume, auxquels on donnera toujours leur juste valeur et qu'on fera passer avant tout le reste. Prions maintenant ensemble et le Seigneur vous aime. Ça, c'est une réalité, ne l'oubliez jamais. Le Seigneur vous aime. Et comment? Seigneur, tu nous dis dans ta sainte parole, prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie. Veillez donc et priez en tout temps afin de paraître debout devant le Fils de l'homme. En effet, Félix l'a entendu sur la foi en Christ. Mais comme l'apôtre Paul discourait sur la justice, sur la tempérance et sur le jugement à venir, Félix était effrayé et il a dit « Pour le moment, retire-toi ». Ainsi, nous-mêmes, nous devons nous regarder comme étant morts au péché et comme étant vivant pour Dieu en et par Jésus-Christ. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Vous avez été attristé, selon Dieu, dans votre vie. En effet, la tristesse, selon Dieu, produit une repentance à salut, alléluia, qu'on ne regrettera jamais. Amen. Et chers amis, n'oubliez jamais que Dieu aime surtout tous ceux qui ont reconnu qu'ils étaient perdus et qui se sont humiliés, ont demandé pardon de leurs péchés, de leur état, ont désiré que le Seigneur, par l'Esprit Saint, les change totalement et qui ont accepté la main tendue de leur Sauveur bien-aimé et ainsi sont maintenant des enfants et co-héritiers que vous êtes avec Jésus-Christ. Amen. Au revoir.